Bonsoir, bonsoir et bienvenue à l'Opéra Comique pour cette deuxième représentation de notre nouvelle production d'Armide de Gluck. Alors, Gluck comme on dit en France, Gluck comme on dit en Allemagne. Le maestro, le chevalier signé Gluck, sans umlaut, sans tréma. Les Français se trompaient, ils avaient tendance à écrire son nom G-L-O-U-C-K. J'ai même trouvé des gelouks. Donc des gens très prudents sur la prononciation de ce nom. Néanmoins, l'habitude a été prise depuis fort longtemps, et surtout depuis le départ de Gluck, qui est rentré à Vienne en 1779, l'habitude a été prise de franciser son nom. On ne dit pas Mozart, on dit Mozart, donc je vais dire Gluck. Mais sachez que lui s'appelait Gluck. Donc c'est... Là, vous aurez compris que vous n'êtes pas venu écouter l'Armide de Lully, mais l'Armide ultérieure. C'est le même livret, mais qui a été... à nouveau composé, 90 ans après la création de Lully, par Gluck. Alors, il faut imaginer d'abord que dans une Europe où on joue de l'opéra italien partout, sauf en France, où on joue de l'opéra français, eh bien, dans cette Europe de la fin du siècle des Lumières, il y a quelques très, très grands compositeurs, et en particulier, il y a ce fameux Gluck qui a non seulement composé de prodigieux opéras italiens, mais qui a réformé l'opéra italien. Il est en exercice surtout à Vienne, qui est la capitale impériale allemande, un énorme empire qui comprend le nord de l'Italie, et il a réformé en profondeur l'opéra italien, qu'on appelle alors l'opéra seria, en y remettant du drame, là où l'opéra seria était devenu une forme de catalogue qui alternait des airs de grande prouesse avec des récitatifs, des airs prodigieux avec des récitatifs, des airs extraordinaires avec des récitatifs. Il avait mis du drame là-dedans et tout le monde le savait en Europe, puisque quand on jouait de l'opéra et des opéras à succès à Vienne, très rapidement, ils étaient joués un peu partout en Europe. Donc Gluck était un homme extrêmement prestigieux, extrêmement recommandé et loué dans les années 1770. Et c'est le moment où une petite princesse, fille de l'impératrice à qui il avait donné des cours de musique dans sa jeunesse, devient la dauphine de France, puisque à 14 ans, on la marie au dauphin et qu'elle prend la route de Paris pour devenir donc à la cour de Versailles la jeune Marie-Antoinette, qui quelques mois après son arrivée devient reine de France, puisque Louis XV meurt assez rapidement après les noces de Marie-Antoinette avec le dauphin. Eh bien, dans ces conditions, il faut aussi imaginer qu'à Paris, à l'opéra, qu'on appelle alors Académie royale de musique, donc très grande institution mécénée, parrainée par le pouvoir royal, on a, depuis une dizaine d'années, perdu un très grand compositeur et on n'arrive pas à retrouver quelqu'un d'aussi génial, c'est Rameau. Rameau est mort en 1764 et depuis... Bien sûr, on continue à jouer Rameau, bien sûr, on continue à jouer Lully, qui était le lointain fondateur de l'institution sous Louis XIV, mais ça s'essouffle en quelque sorte. L'opéra français ne trouve pas de nouveaux souffles et ne trouve pas de nouvelles têtes pensantes, ni pour l'écriture des livrets, ni pour la composition de la musique. On a le sentiment que le genre a vieilli. Or, cet apport culturel nouveau qui vient de Vienne, qui est la jeune Marie-Antoinette, qui peut drainer derrière elle des artistes, des idées nouvelles, incite l'Académie royale de musique en 1773, alors que Marie-Antoinette s'apprête à arriver, incite l'Académie royale de musique à inviter Gluck à faire à Paris ce qu'il a fait à Vienne, ce qu'il a fait dans les pays qui chantent en italien, réformer l'opéra, proposer quelque chose de nouveau, quitte à bousculer un petit peu les habitudes. Et en fait, à l'Académie royale de musique, l'opéra, qui à l'époque se trouve au Palais Royal, hein, c'est un théâtre qui a brûlé deux fois, dont la deuxième fois après le départ de Gluck, qui se trouvait là où se trouve aujourd'hui le Conseil d'État, donc pas à la place de la Comédie française actuelle, un petit peu plus à l'est. Eh bien, à l'opéra alors... On savait depuis longtemps qu'il fallait des scandales, qu'il fallait un petit peu secouer les habitudes des artistes et du public si on voulait faire recette. Il y avait eu à plusieurs reprises des querelles au cours desquelles on avait opposé des styles différents. On avait même au milieu du XVIIIe siècle invité des Italiens à donner de l'opéra bouffe en italien. Ça n'avait pourtant rien à faire sur la scène de l'opéra, mais ça avait permis de créer beaucoup de discussions et d'engager tous les intellectuels à parler des vertus de l'opéra italien et de l'opéra français. Alors là, on va chercher un compositeur de tradition italienne, mais allemand, et on l'invite à rénover un peu, bousculer un petit peu les habitudes de l'opéra à la française. Et bien entendu, on lui propose de composer sur des paroles françaises. Alors, Gluck a, dès le début, dès avant son voyage à Paris, a composé Iphigénie en Aulide, et puis il est arrivé, vous savez que non seulement il a donné Iphigénie en Aulide, mais il a aussi donné une version française d'Orphée Eurydice. Tout cela a eu énormément de succès. Il avait donc présenté des versions italiennes d'ouvrages, des versions françaises d'ouvrages italiens, et il avait commencé à travailler sur des livrets sérieux français. Et après quelques années où il enchaîne les succès, il décide de s'attaquer à un monument. Il décide d'aller chercher dans la production de Lully un livret du XVIIe siècle, et même le livret. Parce que le livret d'Armide, c'est le grand livret de Philippe Quinault. C'est le dernier que Philippe Quinault avait écrit pour Lully. À la fin de leur collaboration, ils ne savaient pas que c'était la fin de leur collaboration en vérité, mais ils sont morts l'un et l'autre très rapidement après la création d'Armide en 1686. Et pour Quinault, c'était le terme d'une très belle production d'une douzaine de livrets, tous plus réussis les uns que les autres, allant vraiment vers toujours plus de beauté poétique et d'excellence de construction dramatique. Et pour Lully aussi, c'était un aboutissement, en quelque sorte, cet Armide, c'était son dernier opéra. Ça a été un énorme succès, et c'est un ouvrage qui restait tout au long du XVIIIe siècle, au répertoire, qui a été joué et rejoué, que les Parisiens connaissaient par cœur. Et le livret en lui-même, d'ailleurs, on avait fini par dire non plus qu'on jouait l'Armide de Lully, mais qu'on jouait l'Armide de Quinault, parce que le livret, si la musique de Lully, on l'a réadaptée un petit peu au fil des décennies, hein, pour la faire accepter par le public de Campras, puis par le public de Rameau, en avançant dans le XVIIIe siècle, le livret, lui, évidemment, on ne pouvait pas en changer une parole, et ce livret restait un prodige de littérature. C'est Voltaire qui disait à Diderot « Mettez tous les philosophes ensemble, ils n'arriveraient pas à écrire le livret d'Armide ». Et c'est aussi Jean-Jacques Rousseau qui, lorsqu'il doit écrire sur les spécificités et les qualités de l'opéra français dans sa lettre sur la musique française, prend le livret d'Armide, prend le monologue qu'Armide chante au moment où elle découvre Renaud et où elle en tombe amoureuse. Il prend cela comme exemple de l'excellence de l'opéra français et de la façon dont on peut mettre en musique la langue française. Donc c'est un monument de la littérature et c'est aussi un monument de la musique. Et Gluck, en 1776, 100 ans après la création de l'Armide de Lully, qui a peu ou prou disparu du répertoire de l'opéra alors depuis une dizaine d'années, Gluck dit « je vais faire ça ». Et je vais montrer, je vais parachever ma réforme de l'opéra français en montrant aux Français que même sur un vieux livret, on peut faire du neuf. Alors, pour lui, il s'agissait d'abord de supprimer le prologue. Dans l'opéra de Lully, il y avait un prologue, comme toujours, des opéras en l'honneur de Louis XIV. C'est d'ailleurs Louis XIV qui avait choisi le sujet d'Armide et de Renaud, donc il y avait un prologue dédié à Louis XIV. Ce prologue, on avait arrêté de le jouer au bout d'un moment au XVIIIe siècle, donc évidemment, Gluck ne le reprend pas. En revanche, il prend tout le livret des cinq actes, il le conserve, il rajoute un tout petit quatrain à Armide à la fin de l'acte 2, vous vous en rendrez peut-être pas compte, mais à la fin de l'acte 3, c'est la fin d'une grande confrontation qu'Armide a avec la haine, voilà, un personnage allégorique très puissant dont elle a besoin pour s'extirper l'amour qu'elle ressent pour Renaud du cœur. Et après le départ de la haine, Armide a un petit quatrain pour supplier l'amour d'avoir des égards pour elle et de l'aider à surmonter cette épreuve d'être enfin amoureuse. Ce petit quatrain, il est original, il n'était pas dans le livret de Quinault pour Lully, mais sinon, c'est exactement le texte de Quinault. Et à partir de ce texte, donc, Gluck a décidé de composer une œuvre à neuf. Alors, il y a beaucoup moins de musique que chez Lully, il y a beaucoup moins de danse, que chez Lully. Parce que le projet de Gluck, c'était de fondre dans un seul mouvement dramatique tous les ingrédients de l'opéra. C'est-à-dire le chant, c'est-à-dire le récitatif, c'est-à-dire la danse, et qu'il y ait un même mouvement dramatique et scénique, si possible, qui englobe tous les ingrédients de l'opéra. Parce que on avait encore, à l'époque de Gluck, l'habitude de sectionner un peu les ouvrages et de faire alterner tour à tour le chant et la danse, mais aussi tour à tour le chant et le récitatif. Gluck, c'est quasiment le premier en France à supprimer de son orchestre le continuo, c'est-à-dire ce qu'on appelait le petit chœur, cet ensemble d'instruments solistes regroupés autour du clavecin qui supportait, qui accompagnait les récitatifs pendant lesquels les chanteurs chantaient moins qu'ils ne déclamaient. À partir de Gluck, c'est terminé, il n'y a plus de continuo dans l'orchestre, tout l'orchestre joue ensemble, on répartit l'orchestre en pupitres d'instruments. Et l'orchestre tient un discours éloquent de bout en bout. Les récitatifs sont accompagnés de tout l'orchestre. Non seulement ils sont soutenus, ils sont nourris, mais même il y a tout le sous-texte éventuellement qui peut apparaître à l'orchestre. Et ce que disent les personnages peut être déjoué ou complété par le discours orchestral. C'est un premier facteur d'unité. Il y a aussi que Gluck tient à entremêler le chant et la danse. Et il y a plein de moments où ça chante, mais également ça danse. Et il avait comme camarade de création, à ce moment-là, à l'Académie royale de musique dans les années 1770, il a bénéficié d'une collaboration formidable avec Nauvert. Nauvert était le grand réformateur du langage chorégraphique en France. C'est en quelque sorte celui qui a mis au point le ballet d'expression. Le ballet en intégrant de la pantomime aux gestes chorégraphiques et en rendant ces personnages dansés véritablement des personnages qui pouvaient raconter une histoire. C'est le premier chorégraphe en Europe, parce qu'il a une très grande carrière européenne, il revenait à ce moment-là d'Allemagne, c'était le premier chorégraphe à pouvoir raconter des histoires entières uniquement en chorégraphie. Il avait une quinzaine d'années avant sa collaboration sur Armide avec Gluck, créé un ballet qui s'appelait Renaud et Armide, qui racontait toute la même histoire, mais uniquement dansée. Ça ne se faisait pas avant Nauvert, de raconter toute une histoire par le truchement de la danse. Donc on a une fusion de tous les éléments, ce qui fait que les dimensions des danses sont moindres. Et partout où Lully a pu développer des danses formidables, dont une passacaille extraordinaire à l'acte 5, pour que Renaud passe un moment dans les délices pendant que Armide va consulter les enfers, parce qu'elle est en rapport régulier avec les enfers, dans l'opéra de Gluck, on a une chaconne qui est beaucoup plus courte, parce que le but n'est pas de faire danser pour danser, ce serait gratuit, le but c'est de faire vivre le plateau, de faire passer un moment étonnant à Renaud, mais qui nourrisse la psychologie du personnage de façon à expliquer ce qui se passe par la suite. Voilà. Donc c'est une grande réforme dramatique, c'était à la fois faire plus dramatique et aussi faire plus simple, plus à fleur de peau, plus émouvant, plus passionné. Et le public de Gluck était très déstabilisé dans les années 1770, quand les intellectuels qui vivaient à Paris, quand Mozart, qui séjourne à Paris au moment de la création des premières créations de Gluck, lorsque Mademoiselle de Lespinasse ou des intellectuels comme cela fréquentent l'opéra, toutes ces personnes sont saisies par la puissance de la musique et par l'incarnation des interprètes, et les gens éprouvent des émotions qu'ils n'ont jamais éprouvées à l'opéra auparavant. C'est que Gluck ne voulait pas faire des opéras qui était juste divertissant. Il voulait même plus divertissement du tout. Il voulait empoigner son public. Et il a fait connaître des émotions à ses publics, aussi bien en Allemagne, en Italie qu'en France, qui étaient alors complètement inconnues. Une façon qu'avait la musique de pénétrer dans les âmes et dans les cœurs, qui était tout à fait nouvelle. Et au fond, qui a créé une première révolution que, presque à peu près 100 ans après, Wagner a reproduite à l'ouverture du festival de Bayreuth. Wagner, qui était l'un des grands compositeurs du XIXe siècle, a se réclamé de Gluck, et qui lui aussi arrivait à faire pleurer son public, à le faire frémir, et à lui faire oublier qu'il était assis dans une salle de théâtre pour le mettre directement en prise avec les personnages sur la scène. Donc c'est Gluck qui, le premier, on peut dire que tous les grands compositeurs ont toujours réfléchi à remettre du drame dans leurs œuvres, et Rameau était déjà extraordinairement inventif de ce point de vue, mais Gluck a fait une vraie réforme, il le disait, il en était fier, et du coup, il a eu des prétentions un petit peu élevées, il occupait beaucoup trop le terrain, et l'opéra, l'Académie royale de musique, s'est dit, on ne peut pas le laisser seul mettre à bord, c'est très intéressant ce qu'il propose, mais il faut faire monter un petit peu l'atmosphère autour de ce personnage qui occupe trop la scène depuis 3-4 ans. Donc l'opéra, au moment où Gluck préparait Armide, a invité un compositeur italien à venir proposer autre chose sur un autre livret de Philippe Quinault, c'était Niccolò Piccini, qui était un très grand maître de l'opéra bouffe à Naples et qui vient donc s'installer à Paris pour quelques années pour lui aussi travailler sur des livrets de Quinault. Et à quelques mois d'intervalle, Gluck présentant son Armide et Piccini travaillant sur un Roland, donc le livret de Lully à nouveau, un livret de Philippe Quinault à nouveau, l'opéra a quelque sorte organisé une confrontation qui a permis à deux camps de s'opposer dans la grande tradition des querelles intellectuelles et musicales françaises. Deux camps se sont formés, le camp des piccinistes en faveur de la musique italienne, à nouveau appliquée sur des paroles françaises, et le camp des gluckistes, qui était un joyeux mélange de gens qui aimaient l'opéra français et qui trouvaient que Gluck était déjà un compositeur français parce que ça faisait 3 ans qu'il était là, mais aussi d'intellectuels et de musiciens qui étaient opposés aux apports des Italiens et qui étaient prêts à défendre même un Allemand en faveur du maintien d'une autarcie de la musique française et de l'opéra français. Donc il y a eu un petit vent comme ça de scandale autour de la création d'Armide qui a été suivi 4 mois après par la création du Roland de Piccini, alors même que les compositeurs s'entendaient plutôt bien. Mais il y a pas mal d'intellectuels autour qui ont créé beaucoup de remous, publié des libelles, des pamphlets, voilà, qui se sont aussi manifestés dans la salle de façon un peu bruyante. Et ce contexte de création a certainement porté Armide encore plus que ce n'était nécessaire, parce que l'œuvre est splendide, ce qui lui a permis de rester en scène de façon quasiment continue jusqu'à la fin des années 1830. Et à partir de la création de l'Armide de Gluck, d'ailleurs, on n'a plus jamais joué l'Armide de Lully. Donc une Armide a remplacé l'autre. Alors maintenant il faut que je vous dise quelques mots quand même de ce personnage, parce que vous n'avez peut-être pas toutes et tous relu la Jérusalem délivrée avant de venir. Le personnage d'Armide est extrait de la Jérusalem délivrée, c'est un petit peu comme, et le tandem disons Armide-Renaud, c'est un petit peu comme le couple Tancrède-Clorinde. Ce sont des couples fameux qu'on trouve dans cette très belle épopée écrite dans la deuxième moitié du XVIe siècle par le Tasse en l'honneur du duc de Ferrare, qui est son mécène, de la famille d'Este. Dans cette très belle épopée qui raconte la première croisade autour de l'année 1100, bien, il y a des couples comme ça qui se détachent et qui vont devenir des couples fameux, exploités en peinture, exploités en sculpture, exploités dans la musique, qu'on pense à Tancrède et Clorinde par Monteverdi, exploités dans les ballets de cour, exploités dans l'opéra. Et en ballet de cour, on a, avant l'opéra de Lully et Kino, qui est déjà 90 ans avant l'opéra de Gluck et Kino, en ballet de cour, on a déjà des ballets de cour autour de la figure de Renaud, du héros Renaud, et de la belle Armide, qui sont donnés dans les cours, dans la cour d'Henri IV, à la cour de Louis XIII, à la cour de Louis XIV. On a régulièrement ces figures qui reviennent en ballet de cour. Mais quand c'était des ballets de cour, c'était Renaud qui était au centre de l'action. Parce que Renaud, c'est le héros chrétien, c'est le croisé, c'est celui qui va libérer Jérusalem. Et parce qu'il a été un petit peu trop violent à l'égard d'un autre croisé qui est chassé du camp de Godefroy, et qui, cherchant une aventure, cherchant à se racheter par un exploit quelconque, tombe dans le pays d'Armide. Et Armide, elle est princesse, elle doit hériter du trône de Damas. C'est une princesse orientale, c'est une païenne, dont on ne dit jamais qu'elle est musulmane dans le livret de Kino, ça intéresse assez peu, puis bon, voilà, on ne peut pas en faire grand-chose. En revanche, ce dont on peut faire quelque chose, c'est de sa qualité de magicienne. Et en tant que magicienne et païenne qui plus est, elle est en rapport avec les enfers, elle parle avec les démons. Et elle est douée d'un pouvoir tout-puissant, et en particulier de celui de séduire les croisés et de les emmener dans son jardin merveilleux, qui est toujours fleuri, ou qui ne connaît pas l'hiver, et dans lequel les croisés se prélassent et ne font plus rien, et évidemment sont détournés de leur chemin vers Jérusalem. Et donc Renaud, c'est celui qui va délivrer les croisés, et qui pendant quelques moments, on ne sait pas exactement quelle durée va tomber, sous la séduction d'Armide, mais par la magie d'Armide, et puis qui va se défaire de cette magie grâce à l'intervention de deux autres croisés. Donc c'est une histoire qu'on retrouve par épisode tout au long de la Jérusalem délivrée, qui, à la fin de la Jérusalem délivrée, finit par évidemment la défaite d'Armide, pendant que Renaud a retrouvé Godefroy pour conquérir Jérusalem. C'était un prétexte narratif très intéressant pour les rois de France qui aimaient à se voir représenté en quelque sorte dans la figure de Renaud, le vaillant guerrier qui est détourné un moment de sa quête et de la gloire par l'amour, comme a pu l'être Louis XIV dans sa jeunesse, mais qui sait sacrifier au bon moment les femmes aimantes pour retourner vers ce qui doit être le but de tout héros, le combat, la victoire, la gloire. Donc c'était très intéressant à présenter dans des ballets de cour devant les rois de France. Mais évidemment, quand on se met à penser à l'opéra, à la naissance de l'opéra, à la fin des années 1660, à ce moment-là, Philippe Quinault se dit il faut renverser la vapeur. On ne va pas mettre au centre d'un opéra où tout le monde chante et danse, donc, qui est un univers merveilleux en soi, on ne peut pas mettre au centre de l'opéra un chevalier chrétien. Il n'a pas sa place là. En revanche, la magicienne, oui. Donc Renaud devient un personnage presque secondaire et c'est la magicienne qui est au centre, la magicienne avec ses sortilèges. Les sortilèges sont parfaits pour lancer au cours de chaque acte un nouveau divertissement dansé, de nouvelles interventions chantées pour justifier tout le chant et la danse tout au long de l'œuvre. Là-dedans, évidemment, le malheureux Renaud, à plusieurs reprises, apparaît, bien sûr, parce qu'il faut quand même qu'il soit là, sinon il n'y a pas d'histoire. Il est campé, vous verrez, dans sa première scène, comme héros, mais comme héros déstabilisé parce qu'il a été renvoyé de son armée. Et puis, après, on le voit céder au charme d'Armide, mais bien entendu, le propos bascule au moment où il faut que ce héros redevienne lui-même et renoue avec l'héroïsme. Donc, on a un opéra, on ne peut avoir d'opéra que si c'est Armide qui est au centre, mais c'est intéressant de voir comment Armide passe par tous les états de l'autorité, de la puissance, de l'amour, du désespoir, parce qu'elle est évidemment quittée par Renaud. Et vous verrez que ce n'est pas une tragédie, elle ne meurt pas à la fin. Elle perd son amour, elle décide de ravager son royaume, mais elle promet la vengeance. Donc on est en quelque sorte tranquille, on sait qu'il y aura un après, on peut espérer un autre épisode. Et Gluck, très intelligemment, a vu qu'il ne s'agissait pas d'une tragédie, alors même que Lully et Kino avaient nommé cela tragédie en musique, Gluck a dit non, c'est un drame héroïque. Et l'héroïsme, c'est celui d'Armide, c'est l'héroïsme d'une femme qui vit son amour jusqu'au bout et qui surmonte le fait d'être quittée par l'homme qu'elle aime. Donc ce point de vue féminin qu'il a épousé avec un énorme plaisir, il correspondait aussi à la transformation du goût à l'époque, qui prônait davantage d'attention aux sentiments, aux émotions. Hein. On est vraiment à la fin de l'époque des Lumières, et le contexte intellectuel est tout à fait favorable à cette nouvelle expression d'émotion. Alors pour finir, vous avez une mise en scène de L'île au bord, qui vous verrez entremêle les ingrédients fantastiques, merveilleux, avec des couleurs orientales. On est très heureux de cette proposition scénique avec un décor et des costumes qu'on trouve formidables et qui ont évidemment, pour les costumes, été réalisés dans nos ateliers avec tout le génie qu'on doit à nos équipes. Véronique Jean s'interprète Armide. C'est une très, très grande, comme vous le savez, tragédienne, qui est une très, très grande interprète de Gluck. On est très heureux d'avoir enfin Véronique Jean dans cette maison parce que ça faisait très, très longtemps qu'elle n'avait pas chanté ici et c'est une interprète hors pair pour ce répertoire. Elle a une très longue tradition d'interprétation de ses rôles, un long compagnonnage avec Christophe Rousset. C'est Christophe Rousset qui dirige cet orchestre. Christophe Rousset, j'ose à peine vous le dire, mais je vais vous le dire quand même, il a fait ses débuts dans La Fosse ici, dans Attis, en 1987, avec William Christie et Jean-Marie Villégier. Donc, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup retrouver et qui est dans cette grande tradition de l'interprétation du répertoire baroque avec son ensemble des talents lyriques sur instruments d'époque. Donc, vous allez entendre les sonorités, les mouvements, les affects, les tempi, tout ce que Christophe Rousset, qui est baigné dans cette culture-là, sait restituer avec des musiciens qui sont merveilleux et qui jouent dans les proportions équivalentes au théâtre dont bénéficiait Gluck en 1777 lors de la création. Voilà, je crois que vous allez passer une très belle soirée. En tout cas, je vous souhaite un beau spectacle.